Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être à l'écoute de Mélomanie. Bienvenue aux anciens et aux nouveaux auditeurs du magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. La semaine a encore été très prolifique en événements musicaux, si prolifique que nous n'allons pas pouvoir revenir sur tous et que nous allons en garder certains pour le prochain numéro. Je vous dirai lesquels tout à l'heure. La semaine qui vient est elle aussi riche en concerts. Pour évoquer cette actualité très fournie, j'ai donc convoqué aujourd'hui trois mélomaniaques pour m'assister dans cette tâche. À mes côtés, dans ce studio, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre en harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Bienvenue à tous les trois et grand merci d'avoir accepté de vous joindre à moi pour ce nouveau numéro de Mélomanie, un numéro dont nous allons tout de suite aborder la première partie, celle consacrée au concert de la semaine dernière.
Mélomanie, retour arrière.
Et le premier concert sur lequel nous allons revenir a eu lieu jeudi 8 mars à la Halle au Grain, dans le cadre de la saison des grands interprètes. Nous l'avions d'ailleurs évoqué avec Catherine Dargoubet lors de sa venue à Mélomanie il y a deux semaines. C'était le concert donné par le Biroc Orchestra de René Jacobs, auquel s'est jointe pour l'occasion la soprano américaine Robin Johansen. Au programme, les symphonies numéro 1 et 6 de Schubert et des airs de Mozart. Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy, vous étiez présents à la Halle au Grain ce soir-là pour assister à ce premier concert du Biroc Orchestra à Toulouse. C'était vraiment une première. Est-ce que ce fut une découverte agréable à vos oreilles ?
Oui, plutôt, puisque c'est un orchestre qui joue sur instruments dits anciens, mais qui aborde un répertoire beaucoup plus vaste que ce type de formation, puisqu'il va de Bach à Schubert et même jusqu'à Beethoven, puisque René Jacobs a voulu, à travers cet orchestre, qu'il n'est pas le seul à diriger, également explorer un répertoire au-delà du répertoire baroque habituel. Donc, ce soir-là, à la Halle au Grain, dans le cadre des grands interprètes, c'était donc un programme Schubert-Mozart, avec deux symphonies de Schubert, la numéro 1 et la numéro 6. Et en fait, le Biroc Orchestra est en train d'enregistrer une intégrale des symphonies de Schubert, donc toujours sur la direction de Jacobs. Et Toulouse était le premier volet de cette tournée pendant laquelle il va enregistrer donc toutes ses symphonies. Et Jacobs donc considère que Schubert, par exemple, est un des compositeurs pour lesquels il a éprouvé dès son plus jeune âge un amour vraiment réel, et que donc Schubert mérite aussi pour lui qu'on le joue sur des instruments plutôt d'époque que sur instruments modernes. Bon, c'est vrai aussi qu'à l'époque de Schubert, même au début du romantisme, les orchestres aussi ne jouaient peut-être pas sur des instruments comme ceux d'aujourd'hui. Donc Jacobs pense aussi que la musique de Schubert peut supporter une lecture plus historiquement informée, on appelle ça, je crois. Oui, c'est ça.
Je crois que c'est le terme consacré.
Voilà. Oui. Finalement, oui, ces deux symphonies de Schubert, et la 1 et la 6, se sont révélées des symphonies de jeunesse très agréables, avec beaucoup de souplesse dans la façon de les jouer, de simplicité aussi, mais je ne dis pas que si on les entend avec un orchestre moderne, on ne les apprécierait pas non plus.
Oui, allez-y.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la clarté des divers plans sonores, hein, c'est très clair. L'effectif est modéré, c'est pas un grand orchestre symphonique. Et puis, ce que j'ai bien apprécié dans cette interprétation de Schubert, c'est les accents qu'il donne, la vigueur qu'il y a. Ça n'est pas une musique adoucie, c'est vraiment, elle a du caractère. Et donc, personnellement, j'ai préféré la sixième, mais bon, évidemment, elle est plus tardive, bien sûr, étant donné son numéro. Mais c'est encore l'œuvre d'un jeune homme, quoique Schubert a toujours été un jeune homme.
Il est mort à 31 ans, le pauvre.
À 31 ans, donc chaque fois que j'écoute du Schubert, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a écrit quand même plus d'un millier d'œuvres. C'est quand même incroyable. C'est un immense compositeur. On ne le dit jamais assez. Il y a une tendresse dans la musique de Schubert, une tragédie même dans les œuvres vocales en particulier, les grands cycles de mélodie. Mais pour ces symphonies, c'était vraiment très intéressant de les voir sous cet aspect-là et pas simplement sous l'aspect interprété par un grand orchestre symphonique bien fourni, quoi. Les deux sont possibles.
Serge.
Alors, Serge, si vous avez apprécié cette sixième, vous aurez l'occasion de l'entendre de nouveau. C'est pas fréquent parce que c'est une symphonie qui est très rarement jouée, mais il se trouve qu'avec l'Enharmonie, on va la jouer le 14 avril à Saint-Pierre-des-Cuisines. Sur instrument moderne, alors je voulais avoir votre avis sur la disposition qui était particulière. Parce que, évidemment, l'instrumentarium est, on dit maintenant, d'époque, hein, c'est-à-dire les instruments classiques, hein, les instruments joués ou copies joués en 1820 à peu près. Hein. La symphonie date, Schubert avait 20 ans, 1817-18. Il y a forcément des différences de volume suivant les instruments. Vous avez remarqué que la disposition de l'orchestre était aussi très particulière. Alors, oui. Comment vous avez perçu ces choses-là aussi? Parce que avoir les vents complètement de côté, qui projettent pas du tout en face par rapport au quatuor, c'est aussi très particulier, cette disposition à l'italienne.
Oui, c'est vrai. Alors, ça amène une homogénéité parmi les vents, puisqu'ils ne sont pas distribués perpendiculairement au regard du spectateur, mais plutôt parallèlement. Et puis, les contrebasses aussi, qui sont au fond, hein, si
oui,
je
oui,
souviens
oui.
bien.
Oui, oui, il y avait quatre
donc,
contrebasses. Ben,
paradoxalement, comme dans les orchestres de l'Est, hein, c'est un peu paradoxal, mais moi, j'ai trouvé l'équilibre intéressant, l'équilibre entre les cordes et les vents.
Oui, alors en fait, c'est la disposition viennoise, hein, c'est-à-dire d'avoir les basses au fond comme ça, et qui a été en réalité remise en question seulement après la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour la stéréo, c'est-à-dire qu'on a divisé un orchestre, les graves à droite et les aigus à gauche. Moi, j'ai trouvé ça effectivement intéressant. J'ai été un petit peu frustré quand même par la sonorité du quatuor. C'est vrai que la transparence, du coup, puis l'écriture est quand même assez fournie, hein, dans ces symphonies. C'est une des difficultés d'ailleurs de l'interprétation, c'est que c'est quand même intense, en réalité, on joue quasiment tout le temps. Vous avez remarqué aussi bon, la disposition, mais aussi le nombre d'instrumentistes réduit. Oui. C'est-à-dire que c'est le nombre d'instrumentistes à l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient 7 premiers, 7 seconds, 5 altos, oui. 4 violoncelles, voilà. Donc c'est peu, donc ça induit aussi hein, forcément des équilibres différents.
Oui. Il n'y avait pas que du Schubert, y avait des airs de Mozart interprétés par Robin Johansson avec le Biroc Orchestra. Oui, oui, oui. Alors ça, comment vous avez trouvé cette interprétation?
J'ai eu la chance d'interviewer cette jeune soprano américaine qui est d'ailleurs venue terminer ses études à Berlin et qui est en troupe à Berlin en fait et qui chante beaucoup de rôles mozartiens à Berlin. Et c'est une très belle jeune femme qui chante très très bien, qui a un timbre tout à fait charnu, tout à fait rond. Ça n'est pas une petite voix de rossignol, hein, c'est plus que ça. Et donc elle a chanté 4 airs. Vraiment très très différents les uns des autres, en particulier le premier, un air de concert assez Incel, Beninestel, et un air vraiment rempli de coloratures. Alors c'est amusant parce qu'elle dit de cet air, c'est comme si on montait sur des montagnes russes et qu'on ne puisse pas en descendre jusqu'à la dernière note. Et c'est vrai, c'est un air assez, assez délicat, hein, et elle a fait ça avec beaucoup d'art, beaucoup de facilité, avec des vocalises très nettes, sans problème. Et puis il y a des airs beaucoup plus mélancoliques, comme Misera dove son, le récitatif, et puis l'air Annonzo Io che parlo, donc que Mozart a composé pour une certaine comtesse Maria Barbara. Et donc, elle a montré vraiment une palette expressive tout à fait belle, tout à fait bien menée. Et puis, il y avait le fameux air récitatif des non Varka, donc un air de colère et de nostalgie, avec un hautbois d'ailleurs qui répond, qui dialogue un peu avec la chanteuse. Et là, c'est comme elle le dit elle-même, et je crois qu'elle a raison, c'est un peu comme un opéra en miniature, un mini-opéra en un seul air, puisqu'il y a à la fois récitatif, air, et on pourrait dire cabalette en quelque sorte.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Serge sur la performance de la soprano, qui est une révélation, puisqu'on ne l'avait jamais entendue ici, et qui, je pense, pourra faire une belle carrière dans les opéras de Mozart. Pour ce qui est du son de l'orchestre, du Biroc Orchestra, je m'interroge quand même, c'est vrai, sur la sonorité des cordes, qui ne sont pas forcément d'une plénitude, comme on aime l'entendre avec les instruments dits modernes. Je pense qu'en plus, dire qu'on peut retrouver le son de ces orchestres dans des salles qui ne sont plus celles de l'époque, parce que
raison,
ces formations jouées dans des salons ou des
beaucoup
toutes petites salles. Donc, je veux dire que déjà, là, Lohengrin est une grande salle.
Et une salle qui absorbe beaucoup le
qui
son.
Qui absorbe beaucoup. Plus, donc, ouais. Je veux dire que les conditions d'écoute étant tellement différentes, je pense qu'il n'est pas forcément utile de dire qu'on va restituer une façon de jouer à l'ancienne, du moins dans certaines salles. Ça peut passer certainement dans des salles plus petites, mais donc là, le souci de l'authenticité. Puis je crois aussi que ce qui compte dans la musique dite classique, c'est aussi l'émotion, et que l'émotion peut être portée par des instruments qui soient de beaux instruments actuels, puisque quand même la lutte a fait des progrès à l'époque moderne et qu'on peut aimer de très beaux instruments qui jouent de façon moderne.
On va en rester là pour ce concert du Baroque Orchestra qui vous a beaucoup plu, c'est ce que j'en retiens. Et nous allons retrouver nos chers Toulousains de l'Orchestre National du Capitole qui sont partis en tournée au Japon. Ils ont donné avant de partir un concert du cycle Happy Hour samedi sous la direction de Tougan Sokiev. C'était à la Logramme bien entendu. Une seule œuvre au programme, enfin une œuvre. La suite du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Un compositeur et une œuvre célèbre souvent jouée par l'Orchestre National du Capitole depuis que Tougan Sokiev le dirige. Là encore, Anne-Marie et Serge, vous étiez présents dans la salle. Est-ce qu'on a encore des surprises à écouter en concert une œuvre si souvent entendue ?
Surprise non, mais là, comme il s'agissait d'une suite qui, je crois, a été remaniée par Tougan Sokiev, Serge, c'est ça ?
La séquence des extraits a été décidée par Tougan, oui.
Oui, ben là, tel que c'est, je pense que ça fonctionne bien parce qu'on retrouve, c'est vrai, des airs célèbres, des thèmes célèbres que l'on connaît si on a vu le ballet ou si on en a entendu les extraits, et que finalement, cette musique quand même se révèle très belle à écouter en tant que telle, avec de très beaux solos d'instruments, des belles mélodies dans lesquelles les cordes peuvent chanter, et que tout ça donne une œuvre qui s'écoute avec plaisir pour un concert qui était à 18h un samedi, comme le sont ces concerts Happy Hour, qui sont destinés aussi à des gens qui vont pas forcément au concert le soir, à des familles, et que c'était à la fois très agréable et d'une haute tenue sur le plan instrumental et agréable à écouter. Voilà, un concert pour le plaisir.
Certes. Oui, c'est exactement ça. En fait, cette suite est composée de 13 extraits du ballet intégral, choisi donc par Tougan Sokiev. Et effectivement, on se demande s'il ne les a pas choisis pour mettre un peu en évidence les qualités des instruments solistes. Il y a vraiment quelques solos tout à fait magnifiques. Hein. Un solo de castagnette, même, dans la danse espagnole. Un solo de cornet à piston dans la danse napolitaine. Et puis, un magnifique solo à trois, on peut dire, dans les variations là, du deuxième acte, Odette et le prince, avec un solo de violon très connu, très réputé, très expressif, un solo de violon qui dialogue avec le violoncelle aussi, et la harpe. Et la harpe est vraiment mise en avant. Et on doit dire que l'harpiste a fait des choses magnifiques hein, ce jour-là.
Gaël Touvenin,
l'harpiste solo de l'orchestre, c'était vraiment très très beau. Et une interprétation, bon, l'orchestre est habitué, Tougan Sokiev, n'en parlons pas, ça coule un peu dans ses veines, hein, cette musique, et donc il y avait un relief de l'orchestre, vraiment une dynamique, un caractère très très fort et très 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 beau. Donc vraiment un très beau moment.
Alors ça m'amène à la question que je meurs d'envie de poser au musicien de l'Orchestre National du Capitole qui est à mes côtés, Serge Krzyzewski. Quand on l'a joué, je ne sais pas combien de fois cette œuvre, je pense que c'est votre cas, est-ce qu'au bout d'un moment on n'en a pas un petit peu marre, voire est-ce qu'on pourrait prendre une œuvre en grippe lorsqu'on la joue trop souvent, quand bien même on l'aurait aimé au départ?
Alors, avant de vous répondre, je voulais juste dire que je m'attendais à ce que Serge parle du solo de hautbois, parce qu'il y a quand même un petit solo de hautbois dans le lac des Cygnes.
Oui, oui, voilà. Je voulais en parler. Alors, permettez-moi de dire qu'effectivement que j'ai été étonné, mais vraiment impressionné par le souffle du hautbois solo, oui, qui a réussi à chanter sa phrase célèbre sans respiration. Mais comment est-ce possible?
C'est possible pour lui, mais pas pour tout le monde.
Ah bon,
voilà. Oui, oui. Non, il a effectivement un talent, un coffre particulièrement grand. Donc, on est très heureux d'avoir avec nous à Toulouse. Alors, pour répondre à votre question, Eric, bien sûr, on ne joue pas heureusement d'un bloc pendant une année continue ou pendant plusieurs mois la même œuvre. Mais non, je dois dire qu'on est content de retrouver une œuvre, hein, parfois, souvent. Hein. Il y a peu d'œuvres qu'on joue très régulièrement, tous les ans, tous les quelques mois. Après, c'est toujours un petit peu différent, suivant les musiciens, suivant
la direction,
bien entendu. Peut-être pour dire un petit mot par rapport à ce que disait Serge et l'arrangement de la suite souhaitée par Tougan Sokiev, ça met probablement en valeur, effectivement, le soin que Tchaïkovski a apporté à l'écriture orchestrale. Et j'ai envie de dire, par rapport aussi à ce que disait Anne-Marie, c'est vrai que le ballet, quand même, c'est assez long, hein, le Lac des Cygnes. Donc finalement, avoir une suite, c'est une sorte de réduction un petit peu du ballet. Il y a quand même des redites hein, dans le ballet complet. Donc là, ça permet d'avoir une sorte de condensé et il a probablement choisi des moments significatifs. Voilà.
Est-ce qu'il y avait la valse du Lac des Cygnes dans les extraits?
Oui,
évidemment.
Bien sûr.
Alors, on va en écouter un extrait de cette valse du Lac des Cygnes interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Thank you. La célèbre valse du non moins célèbre Lac des Cygnes de Tchaïkovski, interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev, une version enregistrée il y a un peu plus d'un an lors d'un concert à la Halle au Grain. Nous allons maintenant remonter le temps un siècle et demi en arrière, en laissant le romantisme russe pour rejoindre le baroque italien. Mardi soir à Audi-Sud, le deuxième concert des rencontres des musiques baroques et anciennes était donné par l'Orchestre des Passions de Montauban de Jean-Marc Andrieux. À leur côté, les chanteurs Magali Léger et Paulin Bungen. Et au programme, le Salve Regina et la sonate Alta Volino de Scarlatti, puis le grand morceau de la soirée, le Stabat Mater de Pergolèse. Cette fois-ci, c'est moi qui étais avec vous, Serge Chosy, pour assister à ce concert très attendu. Nous suivons depuis des années et nous connaissons le travail et l'exigence de Jean-Marc Andrieux. Avez-vous trouvé l'orchestre et les chanteurs à la hauteur de leur réputation mardi soir?
Oui, certainement, mais on peut difficilement parler d'orchestre. Parce qu'ils étaient très peu nombreux. L'effectif était celui de la création, hein, à
sept.
Peu près.
Oui,
sept musiciens, donc vraiment musique de chambre, hein, avec deux solistes vocaux. Donc oui, c'était, alors au début il y a eu un peu d'hésitation, et puis c'est très vite arrivé à l'excellence, donc comme d'habitude. Oui, il y avait ces deux œuvres, avec entre les deux, cette sonate que l'ensemble avait déjà enregistrée il y a des années.
Oui, c'est ce que nous a expliqué Jean-Marc Andrieux après le concert.
Ce que nous a expliqué Jean-Marc, donc... Bon, c'était une belle sonate aussi de Scarlatti.
Très jolie, je ne la connaissais pas moi personnellement, ouais, vraiment très jolie.
Très très belle. Alors la première œuvre donc de Scarlatti, hein, Salve Regina, est courte, hein, il y a six petits morceaux où alternent à la fois des solos, des duos, et j'ai trouvé que vraiment les voix s'accordaient parfaitement, et surtout, elles se complétaient. Donc ça n'était pas des timbres identiques évidemment, puisque la voix du contre-ténor est très ronde et très... très pulpeuse, on peut dire, hein, alors que celle de Magali Léger, la soprano, est au contraire une voix très claire, très légère, mais consistante. Hein, ce n'est pas une petite voix tout
effrayée,
fluette,
hein, oui.
Fluette. Non, pas du tout. Donc, vraiment, ça marchait très bien. Et surtout pour le Pergolèse, évidemment. Alors ça, bon, le Stabat Mater, hein, c'est une œuvre incroyable, hein, d'une beauté absolue, venant d'un musicien, d'un compositeur qui va mourir peu de temps après, à l'âge de 26 ans.
Il est mort 2 mois après la composition.
De la tuberculose, oui. Donc c'est vraiment terrible quand on écoute cette œuvre et que l'on pense à ce qu'il advient à son compositeur. Et il y a des beautés sublimes dans cette œuvre, ne serait-ce que l'ouverture, le premier morceau,
ah,
quoi,
oui.
qui est toute empreinte de ces dissonances douloureuses qui se résolvent évidemment, mais puis qui reviennent. Donc c'est une chose extraordinaire. Et puis la combinaison des deux voix a fonctionné très bien, vraiment, entre le soprano et le contre-ténor.
Et il y avait la douleur du sujet, puis sans doute la douleur que ressentait Pergolèse, qui sentait sans doute
bien sûr,
sa dernière heure arrivée, je le crois. Alors, ce parti pris de Jean-Marc Andrieux de jouer ce Stabat Mater dans la formation originelle,
oui.
avec sept musiciens, parce que c'est comme ça que ça avait été créé à l'époque.
Oui.
Vous l'avez entendu, je suppose, avec des orchestres plus importants.
Oui.
Votre avis là-dessus?
Ah non, moi je trouve ça très bien, hein, parce que les voix passent parfaitement, elles n'ont aucun effort à faire, évidemment, et donc la symbiose entre voix et instruments se fait vraiment très bien. Bien que cela hérite un peu du monde de l'opéra, c'est un peu l'opéra sacré, hein. C'est ce que Bellini appelait, il qualifiait ce Stabat Mater de divin poème de la douleur. Et c'est vraiment ça, lorsqu'on le joue de cette manière-là, il n'y a aucun aspect démonstratif. C'est vraiment très intérieur, très intime.
Alors, je voudrais qu'on aborde un aspect, c'est l'acoustique d'Audi-Sud, qui est quand même particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vois Serge Krichewski hocher la tête.
Non, et justement, de cette œuvre à Audi-Sud, parce qu'on en parlait tout à l'heure pour Schubert sur instrument d'époque à la Halle au Grain, une grande salle, alors qu'au départ, la salle de la Redoute de Vienne, dans laquelle la symphonie avait été créée, c'est pas la même chose, une salle qui sonne beaucoup, etc. Là, on a une salle à tendance un petit peu plus mate quand même, hein, au moins.
Oui.
Très grande pour un effectif tout
oui,
petit.
Mais c'est une salle qui bénéficie d'un soutien électronique, acoustique.
Ah,
il y a en permanence, mais on ne le remarque pas.
Non, c'est vrai.
C'est vraiment très bien fait,
oui,
il faut le dire.
Oui.
Et les interprètes eux-mêmes ont rendu hommage à ce système-là. Ils ont dit que vraiment, pour eux, c'était agréable de jouer, de chanter dans cette acoustique. Acoustique aidée, donc légèrement, mais très légèrement.
Oui,
hein,
oui.
On s'en rend pas.
Cela dit, Magali Léger a bien précisé que c'est une acoustique quand même qui est pas simple pour les chanteurs,
non,
même pour
pas.
Les musiciens en général.
Moi, je l'ai pratiqué beaucoup avec l'Orchestre du Capitole, mais c'est différent parce qu'on y va en général en très grande formation. Oui, on a fait le Sacre du Printemps, on a fait la Vie de héros de Strauss. Voilà, là, je pense que ça remplit. Cela dit, bon, évidemment, il ne faut pas confondre l'acoustique sur laquelle on peut discuter et puis la qualité du travail d'Emmanuel Gaillard et puis de cette programmation extraordinaire qui est très très remarquable depuis longtemps.
On rencontre des musiques baroques et anciennes.
Donc les musiciens, après le concert, ont souligné le fait qu'il y a une très grande différence lorsqu'ils jouent la salle vide et lorsque la salle est pleine. Alors vraiment, et alors ils indiquaient, c'est peut-être une chose à signaler, ils indiquaient que dans certaines salles sont équipées d'un rideau au milieu de la salle et qui permet de se rapprocher,
de reconstituer les conditions d'une salle pleine.
Oui, effectivement, au Concertgebouw, j'ai entendu parler de ça, c'est-à-dire il y a un voile qui retient le son parce que en répétition, la salle vide, la sonorité serait trop grande, trop résonante, et donc on essaye de restituer en partie l'atmosphère, enfin la résonance du concert avec donc la salle pleine.
C'est ça.
On va écouter quelques extraits de ce Stabat Mater de Pergolèse, interprété par les Passions de Montauban, Magali Léger et Paulin Bungen. Extrait du Stabat Mater de Pergolèse, interprété par les Passions de Montauban sous la direction de Jean-Marc Andrieux, avec le contre-ténor Paulin Bungen et la soprano Magali Léger. Et cette dernière, le lendemain de sa prestation à Audi-Sud avec les Passions, était de nouveau en concert à Toulouse, mercredi à l'église Saint-Exupère dans le cadre de la saison des Arts Renaissants avec l'ensemble Rosa Solis. Ils ont interprété un programme intitulé Boccherini à la cour d'Espagne. Et oui, cet Italien contemporain de Mozart et de Haydn a vécu les 37 dernières années de sa vie à Madrid. Il a donc composé une grande partie de son œuvre. Sa pièce la plus connue, le fameux Menuet, occulte un peu le reste de ses compositions, ce qui est bien dommage parce que son œuvre est aussi abondante que variée. On y trouve beaucoup de musique de chambre, notamment des concertos et des quatuors à cordes, forme dont il fut le créateur en même temps que Haydn. Le concert donné par Magali Léger et l'ensemble Rosa Solis était donc l'occasion de découvrir quelques pans de l'univers de Boccherini, entre autres son Stabat Mater, puisque lui aussi en a composé un. Il avait également son quintet en do mineur et l'aria Academica Senon Timoro Alato. Tout ça a été joliment interprété par les 6 musiciens de Rosa Solis et Magali Léger, qui a prouvé une fois de plus que bien plus qu'une chanteuse, elle est avant tout une grande musicienne qui s'approprie vraiment les œuvres qu'elle interprète. Mais il n'y avait pas que Boccherini au programme, il y avait aussi le Quatuor Opus 51 de Joseph Haydn, extrait de ce chef-d'œuvre que sont les 7 dernières paroles du Christ. Là encore, l'interprétation de l'ensemble Rosa Solis a été au niveau de ce sommet de la musique savante européenne. Belle soirée musicale, des découvertes, des redécouvertes. L'assistance était finalement assez fournie, malgré la rude concurrence le même soir à la Halle aux Grains du concert donné par l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon avec Sabine Devielle pour la saison des grands interprètes. Nous reviendrons sur ce concert la semaine prochaine parce qu'il y aura beaucoup de choses à en dire. En attendant, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à celui des Arts Renaissants et écouter Magali Léger et l'ensemble Rosa Solis, voici un extrait du Stabat Mater de Boccherini interprété par leur bon soin. Extrait du Stabat Mater de Boccherini, interprété par Magali Léger et l'ensemble Rosa Solis. C'était mercredi à l'église Saint-Exupère dans le cadre de la saison des Arts Renaissants, dont le prochain et dernier concert a lieu le 11 avril à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le quintet à cordes de Berlin à l'affiche. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une minute pour l'agenda et la seconde partie de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
C'est la seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro. Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse. Également chroniqueur pour Culture 31, le journal La Voix du Midi. Et Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre.
Mélomanie. L'agenda.
Et c'est avec la suite de la saison des grands interprètes que nous ouvrons cet agenda de la semaine. Nous l'avions annoncé lors de la venue de Catherine Dargoubet, le mois de mars est très chargé pour les grands interprètes. Après le Biroc Orchestra le 8 et l'ensemble Pygmalion et Sabine Devielle le 14. C'est le duo David Cadouche et Edgar Moreau qui est à l'affiche lundi 19 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le pianiste et le violoncelliste vont y présenter un programme directement inspiré de leur récent CD, CD de sonates romantiques françaises pour piano et violoncelle. Ils vont en jouer trois. Celle de César Franck et de Francis Poulenc et celle de la bien moins connue Rita Stroll. Anne-Marie, vous avez, je crois, interviewé David Cadouche pour la Dépêche du Midi. Que vous a-t-il dit de ce programme et des œuvres qu'ils vont y jouer avec son complice Edgar Moreau?
Oui, il m'a précisé donc que c'était le programme d'un enregistrement qui vient de sortir chez Erato, donc avec des œuvres de Franck et Poulenc, mais surtout une œuvre inédite d'une compositrice française qui a disparu, qui est morte en 1941, et qui s'appelle Rita Stroll, que personne ne connaissait. Et cette œuvre est une sonate qui s'appelle Titus et Bérénice. Donc ça sera une découverte. Et pour ce qui est du duo Cadouche-Moreau, ils se connaissent déjà depuis quelques années et ils forment un duo quasiment constitué puisqu'ils viennent d'enregistrer cet album et ils ont pas mal de projets ensemble, une grosse activité en duo. Parce que David Cadouche aime à la fois faire une carrière de soliste, mais il aime beaucoup faire de la musique de chambre et se produire aussi en duo de cette manière. On l'a déjà entendu à piano aux Jacobins il y a quelques années, en solo. Il avait découvert le cloître des Jacobins. Et il est venu aussi avec l'Orchestre du Capitole jouer un concerto de Beethoven, je crois que c'était le deuxième. Et là, donc, c'est un programme en duo avec Edgar Moreau, qu'on connaît aussi bien à Toulouse, puisqu'il est déjà venu aussi en soliste. Donc, je pense que c'est un concert à ne pas manquer, puisque c'est de la musique française, et puis cette œuvre inédite de Rita Stroll, que nous ne connaissions pas, ni les uns ni les autres, apparemment.
Oui, il faut dire qu'ils ont pris des risques lorsqu'ils ont enregistré ce CD, en mettant dessus cette sonate de cette compositrice. Je pense qu'à part eux, et sans doute quelques musicologues avertis, pas grand monde ne devait connaître. Oui, Serge, vous voulez.
Alors, c'est comme ça, cette sonate de Rita Stroll, elle comporte sur la partition un extrait de la préface de Racine pour sa tragédie Bérénice, donc, qui dit ceci, ça mérite de le préciser. Titus, qui aimait passionnément Bérénice et qui, même à ce qu'on croyait, lui avait proposé de l'épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire. Cette action est très fameuse dans l'histoire. Voilà comment commence la sonate de Rita Stroll. Donc c'est vraiment intéressant et c'est très bien de découvrir de nouvelles œuvres, en particulier de compositrices, hein, puisqu'il y a eu quand même quelques belles compositrices dans l'histoire de la musique et qui sont le plus souvent, qui se sont effacées devant les compositeurs. C'est le cas de Fanny Mendelssohn, et d'autres.
Cette année, outre les 100 ans de la mort de Debussy que l'on commémore, on commémore aussi les 100 ans de la mort de Lili Boulanger, qui est morte aussi en 1918.
Et qui est morte très jeune.
Très jeune, elle n'avait même pas 25 ans.
Oui.
Voilà, et elle a laissé quelques pièces pour piano, pour piano et violon, piano et flûte, qui sont très jolies aussi.
Oui, et même elle a laissé une cantate aussi, quelques œuvres sacrées.
Voilà, alors Serge Krichevski, vous, Rita Stroll, ça vous disait quelque chose?
Absolument pas.
Ah bon, merde.
Je me sens
moins bête d'un seul coup. Je me sens moins bête.
Je suis très surpris. Est-ce que cette femme a eu un destin tragique? Parce que 1941, est-ce qu'elle a été déportée ou pas du tout?
Non, je ne crois pas.
L'époque à peu près de la sonate, si je ne me trompe pas, de la sonate de Poulenc, de la composition pendant la guerre. Qui figure aussi dans ce disque. Et bon, avant ça, il y a la sonate de César Franck. Donc voilà. Mais non, je ne connaissais pas du tout, vraiment.
En revanche, Edgar Moreau, David Cadouche, vous avez joué avec eux. Votre avis sur ces deux jeunes musiciens.
Mais c'est des musiciens très talentueux, s'il n'y a rien à dire. Hein. Je n'ai pas de souvenirs très très précis, mais en même temps, c'est forcément de très 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 bon niveau. Voilà.
Oui, je crois que la première fois qu'Edgar Moreau est venu à Toulouse, c'était pour jouer sous la direction de Valérie Guerrière. Et donc, c'est quand même un grand soliste, puisqu'il a été deuxième prix du 14e concours Tchaïkovski de Moscou en 2011.
Il était très très jeune en plus à l'époque.
Très jeune,
Qu'à l'âge il avait en 2011.
17 ans il avait.
Oui, ça explique un peu aussi la carrière qu'il fait maintenant.
C'est un grand
monsieur. Je crois qu'ils se sont connus avec David Cadouche au CNSM à Paris, un jour qu'ils étaient plus ou moins camarades.
Oui, Cadouche a été élève de Barenboim aussi, non?
Il a été élève de Jacques Rouvier, ça c'est certain. Oui. Barenboim peut-être aussi, oui.
Oui, non, mais ce sont vraiment deux grands, deux jeunes grands.
Oui.
Donc
oui,
c'est,
oui.
C'est une bonne chose de les avoir réunis là.
Alors ils ont enregistré ce disque, comme ils le disent eux-mêmes, à la ferme. C'est un studio qui était à la campagne. Vraiment étonnant, mais ça va bien je trouve avec la musique par exemple de Poulenc. En tout cas, on va les écouter maintenant dans un extrait, non pas de la sonate de Poulenc, mais dans celle de César Franck, interprétée par David Cadouche et Edgar Moreau. Extrait de la sonate pour piano et violon arrangée pour violoncelle de César Franck, interprétée avec beaucoup d'ardeur et d'engagement par David Cadouche et Edgar Moreau. Vous pouvez les retrouver tous les deux lundi 19 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines lors du concert qu'ils vont y donner pour les grands interprètes. Au programme également la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc et la grande sonate dramatique Titus et Bérénice pour violoncelle et piano de Rita Stroll. La musique de chambre est encore à l'honneur lors de la saison bleue organisée par Alain Lacroix, notre invité de la semaine dernière. Le prochain concert a lieu mardi 20 mars à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs. C'est le Quatuor Hanson qui s'y produit avec un programme intitulé En miroir. Deux pièces vont être jouées, en miroir donc, le célèbre quatuor à cordes de Claude Debussy, dont on a déjà parlé dans cette émission et qu'on va évidemment souvent entendre cette année où l'on commémore les 100 ans de la mort du compositeur. L'autre quatuor à cordes que va interpréter le Quatuor Hanson, c'est le premier de Gheorghe Ligeti, également connu sous le titre Métamorphose nocturne. Alain Lacroix évoquait ici même, il y a une semaine, un renouveau de la musique de chambre en France, avec l'arrivée d'une jeune génération de chambristes, des trios, des quatuors de très haut niveau, et il incluait bien sûr dedans le Quatuor Hanson. Est-ce que c'est aussi votre avis, Serge Krzyzewski, est-ce que vous avez une vision de ce renouveau de la musique de chambre en France et de l'arrivée de jeunes musiciens très brillants qui jouent en trio, en quatuor, en quintet?
Alors bon, je peux pas peut-être me prononcer pour la totalité du territoire. En ce qui concerne le Sud-Ouest et Toulouse en particulier, c'est manifeste. Bon, il y a beaucoup de très jeunes talentueux et talentueuses musiciens et musiciennes qui forment des groupes, qui souvent font une carrière rapidement qui devient européenne, parfois internationale. J'ai envie de dire que c'est particulièrement vrai pour le piano et les cordes. Pour les vents, certainement, c'est un tout petit peu moins d'actualité. Bon, il y a toujours eu des écoles de vent extraordinaires en France, dans toutes les régions de France, enfin en particulier le Nord, l'Est, bien entendu la région Île-de-France aussi. J'ai pas l'impression actuellement qu'il y ait de grands ensembles avant qui émergent dans le paysage. Par contre, au niveau des cordes, c'est absolument évident. Bon, il y a plusieurs quatuors à cordes qui ont fait un bout de chemin très important. Le quatuor Modigliani, le quatuor Harold, le quatuor donc à Laurentson, ce sont des Français. Voilà. Et puis bon, des pianistes qui jouent avec eux, parfois en trio. Les gens s'associent seulement pour jouer à trois ou à cinq aussi ou à six. Donc il y a les deux Chilem également, Guillaume et Marie qui s'associent à beaucoup d'autres gens. Bon, il y a eu par exemple Capuçon Angelic dans une génération un peu plus tôt, mais oui, ça je pense qu'en particulier pour les cordes et les pianos, c'est ce que je dirais. Mais
Il y a eu le trio Zadig aussi récemment.
Qui commence vraiment à entrer dans une très belle carrière internationale, dont deux des membres sont toulousains.
Et oui, Cocorico.
Le quatuor à cordes de Ligeti, on en a parlé un petit peu l'autre jour, le premier. À part Serge Krichevski, est-ce que ça vous dit quelque chose, Serge Chosy ou Anne-Marie Chouchan? La musique de Ligeti en général, d'ailleurs, sa musique de chambre.
La musique, de Ligeti, Ligeti. Oui, ça fait partie des compositeurs du XXe siècle qui sont des grands compositeurs que l'on a joués ou qu'on le joue. Un peu moins actuellement parce qu'il y a moins de concerts de musique. C'est pas contemporain puisqu'ils sont disparus, mais de musique du XXe siècle, il y en a.
La seconde moitié du XXe siècle.
Il y a un peu moins de concerts qui sont uniquement dévolus, au contraire, où il y a la musique du XXe siècle. C'est dommage aussi, d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure des musiques anciennes. Je crois que la création de la musique à l'époque moderne mérite aussi qu'on l'entende, moins qu'on puisse dire. Donc voilà, Ligeti, on l'a souvent entendu, là un peu moins, c'est vrai.
Oui, alors effectivement, le thème, donc... Quatuor en miroir, c'est ça ou bien...
C'est en miroir.
Voilà, effectivement, les métamorphoses nocturnes et le quatuor de Debussy évoquent finalement, pour Ligeti, presque une période qui n'est pas encore la période de son premier quatuor. C'est la période postérieure dans laquelle il écrit des œuvres, dans laquelle il travaille les sons par nappe, c'est-à-dire des œuvres pour très grand orchestre qu'on a eu l'occasion de jouer, comme Atmosphère et Lontano, qui sont des œuvres fascinantes, étonnantes. Effectivement, il y a ce type d'œuvre qui correspond plutôt aux années 70. Les métamorphoses nocturnes, c'est plutôt les années 50, je crois, qui font encore une référence importante à Bartok. Mais il y a aussi cette veine picaresque, un petit peu comme ça, noire, qu'il y a dans Le Grand Macabre, l'opéra qu'il a écrit. Effectivement, ce sont des... Peut-être qu'on aura l'occasion de jouer ça à Toulouse un jour, j'espère, Le Grand Macabre. Et puis, il y a des pièces extrêmement difficiles. Il y a un concerto de chambre, enfin, il y a des concertos de Ligeti, chose incroyable, qui mériterait d'être jouée plus. Et il a écrit plusieurs quatuors à cordes.
Oui, alors là, c'est le premier. Je propose qu'on en écoute un extrait de ce quatuor numéro 1, Métamorphose nocturne de Gheorghe Ligeti, interprété par un des jeunes quatuors français dont vous venez de parler, Serge Krichevski, le quatuor Harold. Il s'agit du deuxième mouvement.
Thank you.
Le deuxième mouvement du quatuor à cordes numéro 1, Métamorphose nocturne de Gheorghi Ligeti, interprété par le quatuor Harrod. C'est une des deux œuvres que va jouer le quatuor Hanson cette fois-ci lors du concert qu'il donne mardi 20 mars à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs dans le cadre de la saison bleue. Au programme également, le quatuor à cordes de Claude Debussy. La semaine prochaine également, mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h30, l'orchestre de chambre de Toulouse donne ses deux concerts mensuels à l'escale de Tournefeuille. Ce programme est intitulé « L'art de la danse » et il a déjà été proposé la semaine dernière à l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines. Il s'agit de ballets sur des sérénades de Niels Gade et Anton Dvorak. Vous avez compris que ce mois-ci, l'orchestre de chambre se produit avec des danseurs et les danseurs en question sont ceux du VM Ballet, une compagnie installée à Toulouse constituée de 40 jeunes danseurs formés par Vinciane Gissens et Matthew Madsen. Ils présentent donc des chorégraphies sur la novelette opus 58 du Danois Niels Gade et sur la sérénade opus 22 d'Anton Dvorak, interprété par les musiciens de l'orchestre de chambre. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir en action le VM Ballet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu cette chance. En revanche, je me demandais ce que vous pensiez de cette idée de créer des chorégraphies sur les musiques dont je viens de parler. Je pense notamment à la plus connue, la sérénade de Dvorak. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Krichevski ?
Ça ne me paraît pas du tout une ineptie. Je pense que déjà, les plus grands chorégraphes certainement ont commencé par le faire. Il y a eu déjà, je pense, au XXe siècle en particulier, évidemment, des gens comme Balanchine qui ont utilisé des œuvres du XXe siècle, mais de la fin du XIXe siècle. Il faut dire que cette musique est la musique de la fin du post-romantisme, de la fin du romantisme, c'est-à-dire Dvorak, Tchaïkovski, sont des musiques vraiment intrinsèquement, quasiment essentiellement chorégraphiques, des sens chorégraphiques, sans parler évidemment des danses qu'ils ont écrites directement. Mais même ce qui n'est pas censé être une danse est tout à fait entraînant, enfin donne vraiment envie d'être chorégraphié. Donc moi ça me paraît tout à fait naturel, personnellement. Je pense par exemple au premier mouvement, la sérénade, ça n'est pas un mouvement de danse, mais c'est une musique tellement libre, tellement déliée, tellement aérienne.
Puis il y a des musiques auxquelles on ne s'attend pas du tout, pour lesquelles on ne s'attend pas à les voir chorégraphiées. Les suites pour violoncelle seule de Bach ont été chorégraphiées.
Oui,
hein,
oui, donc j'ai déjà vu des choses là-dessus.
La musique de les Kindertotenlieder de Mahler, par exemple, on a fait des ballets magnifiques dessus.
Pourquoi pas ?
Vous connaissez le VM Ballet, je crois, Marie ?
Je le connais pour l'avoir vu lors de représentations scolaires organisées par l'association Classisco à la Halle aux Grains. Et donc le VM Ballet est venu à plusieurs reprises pour une représentation pour le très jeune public scolaire. Et il a été associé déjà à plusieurs reprises à l'Orchestre de Chambre de Toulouse qui a participé aussi à ces matinées scolaires. Donc je pense qu'il est un ballet plutôt de style plutôt moderne, enfin d'un modernisme modéré quand même, mais qui se débrouille pas mal. Ce sont des jeunes danseurs qui ont plein non seulement de l'énergie, mais qui savent danser, qui savent évoluer et qui aiment bien justement évoluer avec un orchestre. Donc avec l'orchestre de chambre, ça, c'est certainement quelque chose qui s'est présenté tout naturellement, faire un spectacle.
Un projet commun, voilà.
Un projet commun, oui.
Oui, et d'ailleurs, très récemment, Gilles Collière s'est exprimé à ce propos, et il a dit « Notre rencontre avec le VM Ballet, il y a 2 ans, a été un coup de cœur réciproque. Nous adorons leur travail et leur simplicité. » Donc c'est
un beau compliment et
un beau gage
explique évidemment
de collaboration.
Le projet qui est né depuis. Alors dans la sérénade opus 22 d'Anton Dvorak, il y a justement un mouvement qui s'appelle Tempo di Valse. On va l'écouter, alors il est très très connu, et c'est vrai, on imagine très bien des danseurs et une chorégraphie dessus. Thank you. Tempo di valse, deuxième mouvement de la sérénade pour cordes opus 22 d'Anton Dvorak, une des deux œuvres sur lesquelles le VM Ballet va danser lors des concerts L'Art de la Danse donnés par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h30 à l'Escale de Tournefeuille. Il y a aussi au programme la Novelette opus 58 de Niels Gade. Nous terminons l'émission sur cette sérénade de Dvorak. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce numéro et d'avoir brillamment contribué à l'animer comme d'habitude. Parmi les concerts à ne pas manquer cette semaine, je signale celui que donne l'excellent guitariste Sébastien Linares à l'espace Garonne de Gagnac-sur-Garonne. Ce samedi 17 mars à 20h, accompagné de son quartet, il va jouer des œuvres de Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Gaspar Sanz et Antonio Vivaldi. Ce concert fait partie de la programmation du Festival de guitare d'Aucanville. Vous pouvez renseigner et réserver sur www.guitareaucanville.com. Je rappelle que le duo David Cadouche-Edgar Moreau est en concert pour la saison des grands interprètes lundi 19 mars à 20h. Un programme de sonates pour piano et violoncelle pour lequel les renseignements et réservations sont disponibles sur le site www.grandsinterprètes.com. Le lendemain, mardi 20 mars à 18h15 au musée des abattoirs, concert du Quatuor Hanson dans le cadre de la saison bleue avec un programme de quatuor à cordes de Ligeti et Debussy. Vous pouvez consulter le site www.toulousedt.org à la rubrique La Saison Bleue pour vous informer et réserver. Et enfin, si vous voulez assister au concert L'Art de la Danse de l'Orchestre de Chambre de Toulouse et du VM Ballet à l'Escale de Tournefeuille, mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h30, je vous invite à consulter le site de l'Orchestre de Chambre www.orchestredechambredetoulouse.fr. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry et Jonathan Botello. Une émission disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et excellente semaine musicale à tous.